Madeleine Ferrat, chapitre 11. À la Noiraude, les époux reprirent leur existence morte. Ils s'enfermèrent de nouveau dans l'ombre silencieuse de la vaste salle à manger. Mais leur solitude n'avait plus la paix souriante d'autrefois. Elle était morne, pleine de désespérance. Il y avait quelques jours à peine, ils passaient leur journée au coin du feu, ne parlant guère plus, se contentant d'échanger des regards heureux. Aujourd'hui, leur long tête-à-tête muet les accablait d'un ennui écrasant, d'une vague épouvante. Rien ne semblait changer à leur vie. C'était le même calme, la même régularité d'horloge, le même sommeil solitaire. Seulement, leur cœur restait fermé, leurs regards ne se rencontraient plus avec des douceurs exquises, et cela suffisait pour tout glacer autour d'eux. La grande pièce noire leur paraissait funèbre maintenant. Ils y vivaient dans un continuel frisson, attristés par le jour sale d'hiver, se croyant au fond d'une fosse. Ils se levaient parfois, allaient à la fenêtre, jetaient un coup d'œil désolé sur les arbres nus du parc, puis revenaient, avec des frémissements subits, présentaient leurs mains froides à la flamme. Jamais ils ne parlaient du drame qui venait de les briser. Les rares paroles qu'ils échangeaient demeuraient banales et vides. Ils s'affaissaient dans l'ennui, ils ne se sentaient même plus la force de penser tout haut à leur souffrance. La crise qui les avait secoués au grand cerf semblait les avoir frappés de stupeur et de lâcheté. Ils en étaient sortis le cerveau endolori, les membres las, et ils se laissaient aller à un assoupissement dans la tranquillité noire qui les entourait. Quand un souvenir cuisant déchirait brusquement leur être endormi, ils se disaient qu'ils avaient un mois devant eux. Jacques leur accordait 30 jours de paix. Ils pouvaient sommeiller jusqu'à son retour. Et ils se rendormaient, cherchant à s'hébéter, rêvant vaguement du matin au soir à des puérilités, au feu qui ne brûlait pas, au temps qu'il faisait, à ce qu'il mangerait à dîner. Ils s'enfonçaient en pleine vie animale. Il se portait fort bien, d'ailleurs. Madeleine engraissait, son visage qui s'empâtait prenait des blancheurs molles de nonne. Elle devenait gourmande, goûtait profondément toutes les jouissances physiques. Guillaume s'abandonnait comme elle à l'abrutissement de la douleur. Il passait des heures à trier avec les pincettes et à mettre derrière les bûches les petits morceaux de braise ardente qui tombaient sur les cendres. Le mois de sommeil que les époux avaient devant eux leur semblait ne devoir jamais finir. Ils auraient accepté d'achever leur vie dans l'imbécilité dont ils étaient frappés. Les premiers jours surtout, ils jouirent d'un grand calme. Mais cette stupeur ne pouvait durer. Elle fut bientôt traversée par des élancements brusques et aigus. Le moindre fait qui les tirait de leur accablement leur causait des angoisses intolérables. Geneviève ne tarda pas à les martyriser. Ce fut elle qui les rejeta la première à leur souffrance. Elle se dressa devant Madeleine. Elle l'écrasa de sa présence. La vieille fanatique, forte de sa vie de vertu et de travail, se montra impitoyable pour la pécheresse. L'idée des joies charnelles l'exaspérait, elle, qui avait vécu dans une virginité rude. Aussi ne pouvait-elle pardonner à la jeune femme sa vie d'amour, les frissons voluptueux dont le duvet de sa peau nacrée frémissait encore. Elle la voyait toujours passer des bras de Jacques aux bras de Guillaume, et ce double abandon lui paraissait une prostitution diabolique, un besoin de sale débauche. Elle n'avait jamais aimé Madeleine. Elle se mit à la détester, avec un mépris mêlé d'épouvante. Cette forte fille, blanche et rousse, l'effrayait comme une poule avide du sang des jeunes hommes. Si elle l'accablait de sa haine, elle tremblait devant elle. Elle se tenait sur la défensive par crainte de la voir sauter à sa gorge. Elle n'eût pas haï le diable davantage, ni pris contre lui des précautions plus grandes. Elle continua à vivre dans l'intimité des époux, elle prenait toujours ses repas avec eux, passait les soirées en leur compagnie. Son attitude rigide et menaçante était une éternelle protestation. Elle les traitait en coupables, les regardait avec des yeux de juge implacables, leur témoignait à toute heure le dégoût et la colère que lui causait leur union. Elle s'efforçait surtout de faire sentir à Madeleine combien elle la méprisait. Quand la jeune femme avait touché un objet, elle évitait de s'en servir, voulant montrer par là qu'elle le considérait comme souillé. Chaque soir, elle se remettait à psalmodier les versets de sa grande Bible. Guillaume l'ayant priée d'aller lire dans sa chambre, elle lui avait fait entendre que ses lectures saintes purifiaient la salle à manger, en chassaient le démon, et elle s'était entêtée à demeurer là jusqu'à l'heure du coucher, en plissant l'ombre de sa voix bourdonnante. De jour en jour, elle lisait plus haut, elle choisissait des passages plus sanglants. Les histoires où des femmes coupables se trouvaient châtiées, l'incendie de Sodome, la meute de chiens dévorant les entrailles de Jézabel, revenaient à chaque instant sur ses lèvres. Alors, elle jetait à Madeleine des regards luisants d'une joie cruelle. Parfois même, elle ajoutait des réflexions au texte. Elle menaçait de tourments horribles une criminelle qu'elle ne nommait pas, mais que ses yeux désignaient. Dans ces sortes d'improvisations, murmurées à voix basse, elle étalait les supplices de l'enfer, les chaudières d'huile bouillante, les longs crocs des démons retournant sur la braise les corps grillés des damnés, les pluies de feu tombant pendant l'éternité, lentes et continues, et dont chaque goutte marque d'une brûlure les épaules des foules hurlantes de l'abîme. Puis elle demandait à Dieu une prompte justice. Elle le suppliait de ne pas laisser échapper un seul coupable, de débarrasser au plus tôt la terre de ses souillures. Madeleine voulait ne pas entendre, mais les paroles basses et sifflantes lui entraient dans les oreilles malgré elle. Elle finit par devenir superstitieuse, elle qui n'avait pu se faire une croyance. Certaines heures de trouble, elle s'imagina que cet enfer, cette chambre de torture dont la fanatique lui offrait sans cesse l'affreux spectacle, existait réellement. Dès lors, elle vécut dans des sueurs d'angoisse qui lui mouillaient le dos lorsque la pensée de la mort se présentait à elle. Elle se crut coupable et à jamais condamnée. Cette vieille femme, qui employait ses journées à lui faire sentir l'horreur de son crime, et la cruauté du châtiment que le ciel lui réservait, détraqua sa raison au point de lui donner des poltronneries d'enfant. Elle ne se reconnaissait plus, elle pensait au diable comme elle avait pensé à Croque-Mitaine quand elle était petite fille. Et elle se disait « Je suis infâme, Geneviève a raison de me traiter en pécheresse. Je souille cette maison de ma présence, je mérite les plus grands tourments. » Alors, le soir, elle entendait les lectures de la protestante avec des épouvantes folles. Il lui semblait saisir des chocs de fer, des sifflements de flammes, dans le murmure qui traînait autour d'elle. Elle pensait que, si elle venait à mourir pendant la nuit, elle s'éveillerait le lendemain au milieu d'un brasier ardent. Mais elle n'acceptait pas toujours sans révolte les cauchemars que lui donnait l'attitude de Geneviève. Parfois, elle s'irritait de la retrouver sans cesse impitoyable devant elle. Quand elle la voyait repousser le pain qu'elle venait de couper, quand elle rencontrait le regard dur dont elle la poursuivait, elle finissait par entrer dans des colères aveugles. Il lui restait des élans d'orgueil qui la redressaient sous les continuelles blessures de la protestante. Alors, elle disait qu'elle entendait être maîtresse chez elle, elle s'emportait jusqu'à la rage. « Je vous chasse !» criait-elle à la vieille femme. quitter cette maison sur l'heure. Je ne veux pas ici d'une folle. » Et quand Guillaume baissait la tête, n'osant souffler les mots, elle se tournait vers lui et elle ajoutait violemment « Tu es donc lâche, toi! Tu ne peux seulement pas faire respecter ta femme! Débarrasse-moi de cette folle, si tu m'aimes encore !» Geneviève souriait étrangement. Elle se levait, grande et roide. Elle fixait sur Madeleine ses yeux ronds, brûlés d'un feu sombre. « Il n'est pas lâche, » disait-elle de sa voix sèche. « Il sait bien que je n'insulte personne. Pourquoi vous révoltez-vous quand c'est Dieu qui parle ?» Elle montrait sa Bible. Elle avait sur la face une joie diabolique. Puis des fureurs la prenaient à son tour. Elle continuait en élevant le ton. « C'est toujours ainsi. L'impur veut lever la tête et mordre les femmes honnêtes. Il serait beau, vraiment, que vous me chassiez de cette maison où je travaille depuis 30 ans. Vous qui y êtes entrés pour y amener le péché et les larmes. Regardez-moi donc, et regardez-vous. J'ai 100 ans bientôt. J'ai vieilli dans le dévouement et la prière. Je n'ai pas une faute à me reprocher, lorsque je songe à ma longue vie. Et vous voudriez que je faiblisse devant vous? Que je fusse assez niaise pour vous céder la place? D'où venez-vous? Et qui êtes-vous? Vous êtes toute jeune et vous suez déjà la mort. Vous venez du mal, et vous allez au châtiment. Je puis vous juger en face. Je ne dois pas vous obéir. » Elle prononçait ces paroles avec un orgueil indomptable, une conviction profonde, car elle considérait Madeleine comme une voleuse qui se serait introduite par surprise à la Noiraude et qui aurait cherché à y voler l'estime et la paix. La jeune femme s'exaspérait à chacune de ses attaques. « Vous sortirez !» reprenait-elle avec force. « Suis-je ou non la maîtresse ici ? Ce serait risible que je fusse obligée d'abandonner ma demeure à une servante. » « Non, je ne sortirai pas !» répondait nettement Geneviève. « Dieu m'a mise dans cette maison pour veiller sur mon fils Guillaume et pour vous punir de vos fautes. Je resterai jusqu'au jour où il sera délivré de vos bras, et où je vous verrai écrasé sous la colère du ciel. » Cet entêtement, cette voix perçante de vieille femme, brisait les volontés de Madeleine. Elle faiblissait, n'osant sauter à la gorge de la centenaire, ne sachant comment se débarrasser de sa présence. Elle retombait assise, elle répétait d'un ton déchirant « Que je souffre! Que je souffre !» Vous ne comprenez donc pas que vous me tuez lentement avec vos persécutions? Croyez-vous que je ne sente pas le froid de vos regards toujours attachés sur moi? Et chaque soir, quand vous lisez, j'entends bien que vous vous adressez à moi seul. Vous voulez que je me repente? Le repentir est inutile. Dieu ne pardonne pas les crimes de la chair. Eh bien alors, laissez-moi en paix. Ne me parlez plus de votre diable et de votre Dieu. Ne me donnez plus chaque soir un cauchemar qui me tient haletante jusqu'au lendemain. Vous pouvez rester, cela m'est indifférent. Mais je ne veux plus vous voir. Je vous supplie de vivre ailleurs, dans une autre pièce. Hier encore, vous parliez de l'enfer avec des voluptés sinistres. J'ai passé une nuit affreuse. » Elle frissonnait, et Geneviève la regardait pâlir d'un air singulier de contentement. « Ce n'est pas moi, disait-elle, qui vous donne des cauchemars. Si vous ne pouvez dormir, c'est que le démon est dans votre corps et qu'il vous tourmente dès que vous avez éteint votre bougie. »«
Vous êtes folle !»
criait Madeleine, plus blanche qu'un linge.
« Vous cherchez à m'effrayer comme si j'étais un enfant. Mais je ne suis pas poltronne. Je ne crois pas à vos contes de nourrice. »
« Si, si, » répétait la fanatique avec une conviction d'hallucinée. « Vous êtes possédée. Quand vous pleurez, je vois Satan qui gonfle votre cou. Il est dans vos bras agités de gestes fous, dans la chair de vos joues contractées par de rapides crispations. Et tenez, regardez votre main gauche en ce moment. Voyez-vous les convulsions qui en tordent les doigts? Satan est là! Satan est là !» Elle jetait un cri. Elle reculait comme devant une bête immonde. La jeune femme regardait sa main, dont un frémissement nerveux agitait en effet les doigts. Elle se taisait. Elle ne trouvait plus une seule parole de colère et de protestation.
« Geneviève a raison, » pensait-elle. « Ce n'est pas elle qui m'effraie. L'effroi est en moi, dans ma chair coupable. La nuit, lorsque j'ai des cauchemars, ce sont mes souvenirs qui m'étouffent. »
Alors elle s'abandonnait. Elle acceptait la présence de la vieille servante. Toutes leurs querelles finissaient ainsi. Madeleine en sortait plus épouvantée. Dans son effarement, elle confondait Jacques, qu'elle sentait toujours en elle, avec le démon que la protestante prétendait voir s'agiter sous sa peau. Le mépris dont l'accablait cette dernière, l'horreur sainte qu'elle paraissait éprouver à sa vue, l'enfonçait dans des rêveries amères. « Je suis donc bien infâme, » se disait-elle, « que cette femme refuse de toucher les objets dont je me suis servie. Elle frissonne à mon aspect comme si elle apercevait un crapaud. Elle m'écraserait volontiers la tête d'un coup de talon. Il faut que je sois une misérable créature. » Et elle s'écœurait d'elle-même. Elle considérait avec des nausées sa peau blanche, s'imaginant la voir fumée d'une odeur âcre. Il lui semblait que sa beauté était un masque derrière lequel se cachait quelque animal monstrueux. Quand la folie religieuse de la fanatique avait détraqué sa tête à ce point, n'ayant plus nettement conscience de son être, elle passait des heures entières à écouter si elle n'entendrait pas réellement Satan au fond de sa poitrine. Guillaume était trop frissonnant pour la sauver des mains de Geneviève. Cette dernière les dominait étrangement tous deux, par son âge, par son attitude exaltée de prophétesse. Le jeune homme aurait bien voulu avoir le courage de l'envoyer vivre seul dans le pavillon qui se trouvait au bout du parc. Mais il n'osait l'y contraindre. Elle avait bercé son père, elle l'avait élevé lui-même. Il ne pouvait la chasser. Quand elle se querellait avec Madeleine, il se faisait tout petit. Il cherchait à ne pas être écrasé entre ces deux femmes courroucées. Mais il avait beau faire, il arrivait toujours un moment où chacune d'elles le meurtrissait. Madeleine lui reprochait de tolérer l'incroyable liberté de langage de Geneviève, et celle-ci l'accusait de se damner volontairement en vivant avec le péché. Frappé des deux côtés, trop faible pour prendre une décision violente, il les suppliait de se taire, de ne pas désoler si cruellement sa vie. Dès qu'il les voyait en face l'une de l'autre, la crainte de les entendre s'attaquer lui donnait de vives inquiétudes. Et si elles venaient à échanger quelques mots aigres, il se levait, allait battre les vitres du bout de ses doigts, anxieux, sentant l'orage se former sur sa tête. Ce qui acheva d'affoler les époux fut l'idée qu'avait Geneviève de travailler au salut de Guillaume. Elle voulait l'arracher des bras de Madeleine, le purifier pour qu'il n'allât pas en enfer. Elle s'employait à cette conversion avec tout l'entêtement de sa nature. À chaque heure, elle trouvait moyen de revenir à son idée fixe. Le moindre incident lui servait de transition. « Écoute, mon fils, » disait-elle alors. Tu devrais, le soir, venir faire tes prières dans ma chambre, comme lorsque tu étais petit. Tu te souviens, tu joignais les mains, tu répétais une à une les paroles que je prononçais. Cela te sauverait des pièges du démon. » Le jeune homme faisait la sourde oreille. Mais la protestante n'en devenait que plus âpre. Elle s'expliquait nettement. « Toi, » reprenait-elle. Tu peux encore échapper aux griffes de Satan. Tu n'es pas à jamais souillé et condamné. Mais prends garde si tu restes entre les bras de l'impur. Elle t'emportera une de ces nuits dans l'abîme. Une prière rachèterait ton âme. Quand tu es sur la poitrine de cette femme, si tu voulais répéter trois fois une oraison que je vais t'apprendre, elle pousserait un grand cri et tomberait en poussière. Essaie, tu verras. Madeleine était toujours là. Elle écoutait la vieille folle, avec effarement. Alors, Geneviève récitait lentement l'oraison qui devait faire tomber la jeune femme en poussière. Lubrica, fille de l'enfer, retourne dans les flammes dont tu es sortie pour la damnation des hommes. Que ta peau noircisse, que tes cheveux roux coulent sur ton corps entier et le couvrent d'un poil de bête. Va-t'en, au nom de celui dont la pensée te brûle, au nom de Dieu le Père. » Cette adjuration avait sans doute été composée par la fanatique elle-même. Elle l'accompagnait de certaines recommandations. Il fallait la prononcer à 3 reprises et faire chaque fois un signe kabbalistique sur le corps de l'impur, la première fois sur le sein gauche, la seconde sur le sein droit, la troisième sur le nombril. C'est après ce 3e signe que ce corps de neige devait se changer en une fange ignoble. Les époux, en entendant les divagations atroces de Geneviève, croyaient avoir tout éveillé un cauchemar sans cesse renaissant. Ce mélange de religion et de sorcellerie finissait par leur faire perdre le sens réel des choses. Madeleine se sentait entraînée dans une sorte de tourbillon diabolique. Sa raison droite, sous les coups de la vieille femme, chancelait chaque jour davantage. Guillaume menait, comme elle, une vie atroce de secousses nerveuses, de peurs bêtes. Pendant 1 mois, ils vécurent dans ce milieu d'épouvante. La Noiraude s'emplissait des exorcismes de Geneviève. La chanteuse de cantiques suivait les longs corridors en murmurant des prières, et souvent, la nuit, elle chantait des psaumes dont les versets se traînaient lugubrement dans le silence. On eût dit qu'elle prenait à tâche de rendre ses maîtres fous à lier. Les époux avaient un autre sujet d'angoisse. La petite Lucie les frappait cruellement aussi par sa moue de fillette grave qui la faisait ressembler à Jacques. Elle restait forcément à la Noiraude, sa nourrice venant d'entrer en condition chez un bourgeois de Vétheuil. Guillaume n'osait avouer qu'elle l'effrayait et qu'il fallait l'envoyer au loin. Il s'efforçait d'oublier sa présence pendant les longues journées qu'elle passait à son côté dans la vaste salle. Lucie ne jouait presque plus, elle restait assise par terre, immobile, muette, comme une grande personne qui réfléchit. Avec cet instinct de tendresse des enfants, elle comprenait que son père la reniait. Elle n'avait guère que 3 ans et demi. Elle ne pouvait raisonner son abandon, mais elle sentait une affection moins tiède autour d'elle. Elle s'attristait de ne plus recevoir de caresses. Madeleine, en voyant que ses jeux turbulents faisaient souffrir son mari, lui avait si souvent répété de se tenir tranquille, d'une voix sévère, qu'elle en était devenue toute timide. Elle marchait doucement en évitant de faire du bruit. Ses joies bruyantes avaient disparu pour faire place à une sorte de recueillement effrayé. Sa position favorite était de demeurer accroupie devant le feu. Elle prenait ses petits pieds dans ses mains et se balançait lentement sur son derrière pendant des heures. Puis elle tombait dans des immobilités complètes, regardant la flamme. Elle devait rêver à ce froid qui la glaçait maintenant. Sa pensée à peine formée se perdait sans doute dans les gros chagrins que lui causaient ses malheurs immérités. Parfois, sans cause apparente, elle sortait brusquement de sa rêverie, elle levait la tête et regardait Guillaume en face. Elle pinçait les lèvres, elle fronçait les sourcils, examinant son père d'un air fixe, comme pour lire sur son visage ce qu'il pouvait avoir à lui reprocher. Le jeune homme croyait voir Jacques. Il quittait le coin de la cheminée, marchait fiévreusement de long en large. Et pendant qu'il allait et venait, il sentait les regards de l'enfant attachés sur lui. Lucie, au sortir de ses longues immobilités, avait des airs de petite vieille, sa figure pâle se ridait, devenait d'un sérieux étrange. Elle semblait songer à des choses hors de son âge. Guillaume s'imaginait qu'elle comprenait tout, qu'elle devinait ce qui l'éloignait d'elle. Ses attitudes de grande personne, ses yeux pleins de pensées tristes, lui causaient une émotion indéfinissable, comme s'il se fût toujours attendu à l'entendre raisonner en femme faite et lui parler de sa ressemblance avec Jacques. Souvent, Lucie ne se contentait pas de regarder son père. Elle se levait doucement, elle s'approchait et lui tendait les bras. Alors elle répétait son mot favori. « Prends-moi, prends-moi !» D'une voix suppliante, poussée par cet irrésistible besoin de caresse qu'éprouvent parfois les enfants. Et, comme Guillaume ne se baissait pas, elle insistait. Des colères nerveuses contractaient son visage. Lorsque son père avait réussi à échapper au contact de ses mains, elle allait se jeter en pleurant dans les bras de Madeleine. Celle-ci souffrait des tristesses de sa fille. Elle n'osait, quand elle la voyait songeuse, la prendre sur sa poitrine, jouer avec elle, pour la tirer de son immobilité résignée de petite martyre. Elle craignait d'irriter son mari. Mais chaque fois que l'enfant, repoussé par son père, venait lui demander de la consoler, elle ne pouvait résister à l'envie folle qu'elle avait de la serrer contre elle. Elle essuyait sous des baisers les grosses larmes silencieuses dont ses yeux s'emplissaient. Elle la promenait un instant, lui parlant bas, cherchant à lui donner en quelques secondes l'affection dont elle la privait. Un jour, Lucie, que Guillaume avait écartée d'un geste brusque, courut vers sa mère en sanglotant. Dès qu'elle fut sur ses genoux, « Papa m'a battue !» balbutia-t-elle. « C'est un méchant, je ne veux plus de lui !» Le jeune homme s'était approché, regrettant sa brutalité. « Tiens, regarde !» dit Madeleine à la petite fille qu'elle berçait pour la calmer. « Ton père est là, il t'embrassera si tu es sage !» Mais l'enfant jeta ses bras au cou de la jeune femme d'un mouvement effrayé. Quand elle se crut en sûreté, elle leva les yeux vers Guillaume, elle le regarda de son air grave. « Non, non !» murmura-t-elle. « Je ne le connais plus !» Et elle accompagna cette parole d'une moue de répugnance qui fit échanger aux époux un singulier regard. Les yeux de Guillaume disaient clairement à Madeleine « Tu le vois, elle refuse d'être ma fille, elle a dans les veines un sang qui n'est pas le mien. » La présence de ce pauvre être était ainsi pour eux un continuel sujet d'angoisse. Il leur semblait que Jacques fût toujours là, à leur côté. Ils se martyrisaient eux-mêmes, donnaient à des puérilités des sens gros de terreur et de souffrance. Le jeune homme surtout paraissait prendre un horrible plaisir à s'imaginer des monstruosités. Il aimait encore sa fille d'une affection étrange, pleine de soudaines épouvantes. Parfois, il avait des envies de la serrer contre sa poitrine, d'écraser ses tresses ou des baisers pour la faire toute sienne. Il la considérait attentivement, cherchant sur son visage une place frappée à sa ressemblance afin d'y coller ses lèvres. Puis il s'effarait peu à peu en voyant l'enfant, troublé par cet examen, pincer les lèvres et froncer les sourcils. Et il se perdait alors dans ses anciennes pensées. Il n'était pas le seul père de cette petite. Il s'était donné entier et n'avait pu obtenir de Madeleine qu'une fille déjà ébauchée dans les étreintes d'un autre homme. La vue de Lucie, qui le regardait avec des yeux songeurs de grande personne, l'idée qu'un hasard avait fait de lui un simple instrument aidant à la naissance de l'enfant de Jacques, son ancienne affection pour cet homme et la haine jalouse dont maintenant il se sentait envahi, tout le poussait à des angoisses intolérables, à des révoltes déchirantes de chair et d'esprit. « Je suis une dupe de la vie, » songeait-il avec amertume. « On m'a tout volé, ma chair, mon cœur, ma raison. Sans cesse les faits et les hommes m'ont torturé. J'ai aimé deux êtres, Jacques et Madeleine, et ces deux êtres me soumettent à cette heure. Il ne me reste plus qu'à subir cette misère incroyable, être volée dans mon enfant. Mes baisers ont ressuscité Jacques, j'ai mis Lucie, j'ai mis cet homme entre Madeleine et moi. » Un événement vint encore redoubler ces mots.